Chapitre 6. Le revers du masque. Elle avait projeté de s'arrêter à une petite distance de la maison de Bellamy et d'envoyer chercher Molly Mill. Ce ne fut que lorsqu'elle en parla au postillon qu'elle sentit l'inconvénient de n'avoir pas pris avec elle un domestique. Il ne pouvait pas quitter ses chevaux et elle fut réduite à le laisser avancer jusqu'à la porte. Lorsqu'il sonna, la frayeur de rencontrer subitement Mistress Tyrold la saisit. Elle fit ouvrir la portière et descendit promptement de la chaise pour s'éloigner de quelques pas avant qu'on vînt à la porte. Mais en descendant, elle aperçut au travers d'une grille Eugénia qui se promenait seule et tournait ses regards d'un autre côté. La vue de cette sœur chérie, dont le sort lui paraissait encore plus déplorable depuis qu'elle connaissait le caractère de Bellamy, lui fit oublier toutes ses craintes. Elle traversa précipitamment la cour, ouvrit la porte de l'endroit où était Eugénia, courut à elle, la serra dans ses bras et l'inonda de ses larmes sans pouvoir articuler un mot. « Grand Dieu !» s'écria Eugénia, saisie de surprise et de joie. « Est-ce vous, ma sœur? Est-ce bien Camilla, ma chère Camilla, que je tiens dans mes bras ?» Trop faible pour supporter une émotion si violente, elle se laissa glisser sur le gazon. Camilla n'avait pas la force de lui répondre. Son horreur pour Bellamy repoussait de son esprit toutes les idées consolantes et son propre désespoir, qui semblait la veille suspendre les ressorts de sa vie, céda au sentiment de sympathie et de compassion pour sa sœur. « Vous m'avez surprise, » lui dit Eugénia, un peu ranimée et lui tendant la main. « Je ne me croyais plus susceptible d'être si vivement émue, mais je vois qu'on ne vient pas si facilement à bout de vaincre ses affections. » Camilla, penchée sur elle, lui répondit par un profond soupir. « Et qu'est-ce qui m'a valu la visite imprévue de ma chère Camilla? Monsieur Bellamy, sait-il que vous êtes ici ?»« Non, » lui répondit-elle en frémissant d'entendre prononcer son nom. Eugénia parut rêveuse et embarrassée. Elle baissa les yeux et dit en hésitant « Je n'ai pas les bijoux, ma chère sœur. Monsieur Bellamy !» Elle s'arrêta. Rappelée par ce peu de mots à elle-même et au but de son voyage presque oublié, Camilla demanda en tremblant si sa mère était encore à Bellefond. « Ah non !» répondit-elle en joignant ses mains et appuyant sa tête sur le cou de sa sœur. « Elle est partie. Elle est venue avant-hier. Elle n'a resté ici qu'une heure. Et s'il m'en fallait encore passer une semblable, je ne doute pas qu'elle ne fût ma dernière. » Camilla, épouvantée, n'osa pas même se permettre une question. Elles continuèrent de marcher quelque temps en silence. « Vous a-t-elle parlé ? » lui dit-elle d'une voix tremblante. « Vous a-t-elle parlé de la malheureuse Camilla qu'elle a bannie ?»« Bannie ? Non. « Mais qu'entendez-vous par banni ? Elle ne vous a point parlé de moi ?»« Non, sa visite n'avait qu'un objet, et ne pouvant le remplir, elle m'a quitté. » Un soupir, ou plutôt d'un gémissement, termina cette courte relation. « Ah, au nom de la tendre amitié, ma chère Eugénia, dites-moi donc ce qui s'est passé. Quelle nouvelle épreuve ma malheureuse mère a-t-elle encore à supporter ? Par quelle fatalité ? Comment est-il possible que vous lui ayez résisté ? Vous ignorez donc, lui dit Eugénia après quelques instants de silence, et son dessein et la proposition qu'elle est venue me faire. Je sais seulement que c'est pour vous voir qu'elle est non seulement venue ici, mais qu'elle a hâté son retour en Angleterre. Ah, puisse-t-elle, s'écria Eugénia, être bénie comme elle le mérite et récompensée dans le séjour de la justice et de la félicité éternelle. Camilla répéta ce vœu du fond de son cœur. « Mais ne puis-je pas donc savoir, dit-elle à sa sœur, quelle est la proposition qu'elle vous a faite ?»« Rentrons dans la maison, lui dit Eugénia. Mon corps est encore plus faible que mon esprit, il me serait impossible de me tenir debout en vous racontant cette scène déchirante. » Camilla, effrayée, renonçait à sa demande. Mais Eugénia ne voulut point la laisser dans l'incertitude dont elle était visiblement tourmentée. Elles entrèrent donc dans une salle, et après avoir fermé les portes et les fenêtres, « Je serai concise et pour vous et pour moi, » lui dit Eugénia, « et dès que vous m'aurez entendu, nous changerons de conversation. Le but de ma mère, en venant ici dans un moment où elle me savait seule dans cette triste maison, était, vous le dirai-je, de me dégager de mes serments, qu'on me forçait, de rompre tous mes engagements et de me rendre à mes parents, à mes sœurs, à mon oncle et au séjour chéri de Clèves. » Sa respiration devint si pénible que la voix lui manqua et que son agitation était si violente qu'elle semblait menacée de convulsions. Camilla la supplia de n'en pas dire davantage, mais elle poursuivit son discours. Une pareille proposition, faite par une personne dont l'honneur et la probité sont incapables de céder un seul instant à la crainte des calamités les plus effrayantes, une proposition, ah, le moment où presque incertaine et à demi vaincue, ce moment a été terrible et je ne puis pas y penser sans terreur. Hélas, je me croyais déjà rendue à ma chère famille. Si cela n'est pas impossible, lui dit sa sœur, pourquoi n'y pas consentir ? Oh non, ma chère Camilla, non ! Les horribles scènes d'une procédure publique qu'il faudrait supporter, mes serments qu'il faudrait rompre, mes promesses qu'il faudrait violer ! Non, ma chère, non ! Parlons d'autre chose. Sa fermeté inflexible pour l'exécution de tout ce qu'elle considérait comme un devoir était trop connue de Camilla pour qu'elle essayât de lui rien opposer. « Et comment, dit-elle, ma mère a-t-elle supporté la perte de son espérance ?»« Avec son courage ordinaire, convaincue que, d'après quelques-uns de mes aveux, la loi pouvait rompre ma chaîne, mais qu'il m'était impossible à moi de vaincre les scrupules de ma conscience dont elle connaît la sincérité, elle a renoncé à sa demande et m'a quittée dans un état que je n'essaierai point de vous peindre. » « Ah, ma chère sœur, ce fut alors que commença pour moi la rigueur de cette épreuve cruelle. » Lorsqu'elle m'eut quitté, lorsque je fus privé d'embrasser ses genoux et de recevoir ses bénédictions, je crus pouvoir défier le destin de renouveler mes souffrances. Mes yeux étaient épuisés de larmes et mon cœur semblait usé à force de sentir. Je me crus endurci, transformé en pierre froide, inanimé, sans mouvement et sans vie. Mais c'est assez parlé de moi, parlons de vous, ma chère Camilla. Qu'est-ce qui vous a conduite ici et qu'entendez-vous en disant que vous êtes bannie ? « Ah, ma chère Eugénia, si vous ignorez ma situation, pourquoi ajouterais-je encore à vos douleurs ? En ménageant votre sensibilité, ma mère m'a aussi épargnée, quoique j'ai déchiré son cœur, quoique je lui ai causé une angoisse qui ne s'effacera peut-être jamais de son souvenir. Elle n'a pas voulu m'enlever l'estime de ma chère sœur, elle ne m'a point nommée dans la crainte que son ton de voix ne décelât sa colère. » Eugénia, étonnée de ce qu'elle entendait, en demanda l'explication. Mais Camilla, voyant qu'elle ignorait totalement la détention de son père, ne voulut point l'agiter de nouveau par ce récit effrayant. Elle motiva le ressentiment de sa mère sur ses dettes et son engagement avec un prêteur d'argent à usure. Eugénia s'affligea sur le sort de sa sœur comme si elle eût été elle-même exempte du malheur. Et Camilla, éprouvant et excitant à la fois le sentiment de la comparaison, ne pouvait s'arracher d'un lieu où elle laissait sa sœur dans la désolation. Le jour qui s'écoulait la força cependant de s'y résoudre. Mais lorsqu'elle sonna pour demander la voiture, le domestique lui répondit que, depuis plus de 2 heures, elle était partie. Le postillon, à qui elle n'avait rien dit, avait trouvé commode de supposer qu'elle n'avait plus besoin de lui. S'embarrassant fort peu de mécontenter Camilla, dont il ne dépendait pas, et assuré que sa maîtresse ne lui en ferait point de reproche, il avait déposé dans la maison le petit paquet de Camilla, et s'était éloigné sans autre information. Camilla se serait félicitée d'un incident qui semblait s'opposer à son départ, si sa sœur n'en avait pas paru plus troublée que satisfaite. En conséquence, elle pria qu'on allât lui chercher une chaise de poste, et Molly Mill, la seule de ses domestiques à qui Eugénia semblait parler sans répugnance, se chargea de la commission. À l'arrivée de Camilla, Molly s'était écriée « Oh, Miss !» et semblait vouloir commencer le récit de quelques détails lamentables. Mais Eugénia lui avait imposé silence en lui disant à demi-voix « Ma chère Molly, souvenez-vous de vos promesses !» Molly revint dire qu'il n'y avait point de chevaux à Belfond et qu'il n'y en aurait que le lendemain. Les deux sœurs se félicitèrent involontairement et ne pouvant toutefois se défendre d'un soupir, en songeant que ce n'était qu'à la nécessité qu'elle serait redevable de cette jouissance. « Mais, ma chère maîtresse, ajouta Molly, je connais un jeune homme que je rencontre toujours quand je fais des commissions. Il va partir pour Salisbury et il passera par Essrington. Si vous avez quelque chose à y envoyer ou à faire dire, il s'en chargera avec plaisir et vous aurez promptement la réponse, car il va en poste et sera demain de retour. » Lorsque Molly fut sortie, Eugénia invita sa sœur à saisir cette occasion pour écrire quelques lignes à sa mère. « Si j'avais, lui dit-elle, le plaisir de voir arriver une réponse, si, comme je n'en doute pas, elle vous mandait de retourner à Essrington avec Miss Marland, car elle ne trouverait pas bon, certainement, de vous voir voyager seule, ce serait un grand poids de moins sur mon cœur de savoir que les peines de ma chère Camilla sont terminées. Je me peindrai votre entrevue, je vous verrai rétablie dans la faveur de ma mère et jouissant de ses caresses. Cette douce idée m'occupera dans ma triste solitude, plus agréablement que je n'ai pu le faire depuis que je réside à Belfond. » Camilla embrassa sa sœur et écrivit le billet suivant. « À Miss Tyrold, je ne puis observer plus longtemps le silence, et cependant, à qui puis-je m'adresser? Je n'ose écrire à mon père, et je n'ose seulement pas penser à ma mère. Coupable de toutes les fautes où l'imprudence a pu m'entraîner, avec le bonheur, j'ai perdu le courage. Que dois-je devenir? Par pitié pour une sœur désolée, laissez tomber ma chère Lavinia, aux pieds de celle que je n'ose nommer, mais que je révère, s'il est possible, plus que je ne l'ai offensée, cet humble souvenir de ma malheureuse existence, de mon repentir, de mes supplications et du tourment inexprimable et mérité que j'endure. Camilla. » Si, même dans cette triste situation, les deux sœurs avaient pu rester ensemble, la douce sympathie aurait pu répandre dans leur cœur le baume de la consolation. La nuit s'avançait, elles ne pouvaient pas se quitter, et quoiqu'à chaque heure sonnante, elles se disent adieu, elles restaient toujours et continuaient de converser. Enfin, en se souhaitant mutuellement une bonne nuit, elles virent lever l'aurore. Elles jugèrent qu'il était trop tard pour se coucher et qu'elles trouveraient plus facilement le moment de se livrer au sommeil qu'une seconde occasion de s'entretenir ensemble sans crainte d'être interrompues. Elles continuèrent leur entretien en attendant la réponse d'Essrington. Camilla n'avait point encore songé à s'assurer d'une voiture, et midi venait de sonner lorsqu'elles entendirent une chaise entrer dans la cour. Elles écoutèrent avec inquiétude, et Eugénia dit à sa sœur à voix basse, « Monsieur Bellamy rentre rarement à cette heure-ci. »« Serait-ce ma mère ? » s'écria Camilla. Eugénia pâlit. « C'est son pas, » dit-elle. Et, un moment après, Bellamy parut. Camilla, ne pouvant s'en dispenser, se leva. Mais sa vue lui fit à peu près la même impression qu'un accès de fièvre. Le feu lui monta au visage, ses lèvres se collèrent, elle garda le silence. Il ne parut point étonné de la voir. Après lui avoir demandé, plus cavalièrement que poliment, comment elle se portait, il sonna, donna quelques ordres, dit à peine un mot à son épouse et se promena en sifflant dans la chambre. Cette métamorphose prompte et complète d'un homme à qui elle avait vu afficher jusqu'à ce moment la plus grande décence lui donna de son esprit aussi mauvaise opinion que de son cœur. Eugénia tenait ses yeux constamment fixés à terre et, quoiqu'elle essayât d'adresser de temps en temps quelques mots à Bellamy et à sa sœur, il était visible qu'elle avait peine à s'empêcher de quitter la chambre. Prenant enfin la parole, « Miss Camilla, lui dit-il, vous savez, je suppose, que Miss Margland est partie ?» Parti et pour quel endroit? Mais pour se rendre chez elle, c'est-à-dire à Clèves. Elle a quitté Londres ce matin au point du jour. La surprise de Camilla lui fit rompre le silence. Quel motif, s'écria-t-elle, peut donc l'avoir forcée de partir si brusquement? Mon oncle l'a-t-il mandé? Non, votre oncle n'est pour rien dans cette affaire. Elle a reçu hier au soir une lettre de MacDercy avec une autre incluse pour Sir Hugh, remplie d'excuses, de pardons, et elle est partie dès le grand matin pour la lui porter. Camilla fut confondue. Pourquoi Miss Margland n'avait-elle pas au moins passé par Belfond pour s'informer si elle voulait l'accompagner? Cette conduite lui parut inexplicable. Un instant après, le domestique de Bellamy apporta une lettre pour Camilla. Elle était arrivée de Londres depuis son départ et il avait reçu du sommelier de Mistress Burlington. Elle alla aussitôt la lire dans la chambre voisine et elle vit avec frayeur qu'elle était de Jacob. Il avait écrit le jour où M. Tyrold avait été incarcéré, mais ayant été envoyée par une occasion, elle venait seulement d'être remise. Les choses vont si mal à Clèves, disait Jacob, à raison de nos malheurs successifs, que mon maître se prive absolument de tout. Il vient de contremander un tonneau de vin de Madère en disant qu'il s'en passerait. Et c'est pourtant, comme Miss peut s'en souvenir, cette espèce de vin que les docteurs ont ordonné pour son estomac. Tous ses domestiques en ont été si affligés qu'ils ont résolu de l'acheter entre eux, de le faire rentrer secrètement et de tâcher que notre maître n'en ait point connaissance avant que le tonneau soit assez avancé pour qu'il n'y ait plus moyen de s'en défaire. Pour cet effet, ils se proposaient de joindre leurs gages et leurs épargnes. Et moi je dis, comme étant par la bonté de notre maître le plus riche d'entre eux, c'est à moi de donner la plus forte somme après le sommelier et le concierge. Et, ma chère Miss, comme tout mon avoir est placé et que je ne puis pas vendre sans perte, si vous pouvez me rendre l'argent du cheval sans vous gêner, jusqu'à ce que Miss Jenny puisse le payer, vous m'obligerez sensiblement. La pauvre Miss Jenny, n'ayant pas une obole de comptant, ce sera une grande faveur que vous ferez à votre très humble serviteur pour la vie, Jacob Mord. Cette preuve touchante de l'attachement des domestiques de Sir Hugh pour leur maître fit verser à Camilla des larmes de sensibilité, malgré la triste et violente préoccupation de son esprit. Mais l'impossibilité de satisfaire à la juste demande de Jacob et la crainte d'empêcher l'exécution de son projet ou de la lui rendre très onéreuse aggravaient douloureusement les regrets de ses mesures imprudentes. Elle ne pouvait se résoudre à déclarer cette nouvelle dette. Mais l'idée de courir sur le champ à Clèves et de tâcher d'adoucir les chagrins de son oncle calma un peu son agitation personnelle. Et où, dans le fait, pourrait-elle trouver un asile? Elle n'avait plus ni voiture ni refuge à Londres. D'ailleurs, elle avait aperçu, par quelques mots de Bellamy, qu'il avait obtenu son rappel à Grosvenor Square et s'en était assez pour l'empêcher de retourner chez Mistress Burlington. « Ah, Edgar, se disait-elle, si depuis le moment de votre généreuse déclaration j'avais eu en vous, comme je le devais, toute ma confiance, si j'avais suivi strictement vos conseils, quelle foule de maux j'aurais évité !» Elle était absorbée dans ses tristes réflexions lorsqu'elle entendit la voix de Bellamy qui parlait avec chaleur à sa femme. Quelques-unes de ses expressions lui firent connaître qu'il la pressait de demander de l'argent à son oncle. Et supposant qu'il ne la savait point à portée de l'entendre, elle se hâta de rentrer dans la salle. Mais le peu d'attention qu'il fit à son retour approchait tellement de la grossièreté qu'elle ne douta point que Mistress Burlington ne l'eût informée de ses remontrances et de la mauvaise opinion qu'elle avait de lui. Il semblait vouloir l'empêcher de parler avec Eugénia, et un moment après, il lui dit, en affectant le ton de l'indifférence, « Miss Camilla, la chaise que je viens de quitter pourrait peut-être vous convenir. »« Non, monsieur, quelle chaise? Pourquoi ?» lui répondit-elle en bégayant. « Il est ici quelquefois difficile d'en trouver une. Les chevaux sont frais et j'ai dit au postillon de ne point partir sans vous avoir parlé. » Cette offre ressemblait si fort à un congé qu'elle ne put pas s'empêcher de dire qu'elle en ferait usage quand elle aurait dit adieu à sa sœur. Elle la regardait avec l'émotion que devait naturellement exciter son triste sort, et ce fut avec peine qu'elle se défendit de lui exprimer la violence de sa douleur. Mais Bellamy ne désemparait point auprès d'elle. Il ne leur accorda pas un seul instant de conversation particulière. Eugénie lui dit seulement « De quel côté allez-vous, ma chère sœur ?»« Je ne suis pas décidée, mais c'est, je crois, à Clèves. » « Je la prends avec grand plaisir pour mon pauvre... » Sa voix manqua, elle ne put pas prononcer « oncle ».« Comme Miss Margland n'est plus à Londres, ajouta-t-elle, vous ne pouvez mieux faire que d'y aller tout droit. C'est un moyen d'abréger toutes les difficultés, et ayant des chevaux de poste, vous y arriverez avant la nuit. » Elles s'embrassèrent tendrement, mais sans se rien dire de plus, et Camilla monta dans la chaise pour se rendre à Clèves.